Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous recevons Serge Klarsfeld et notre confrère et ami Claude Boschurberg, les co-auteurs du Mémorial de nos militants disparus 1977-2023, qui vient d'être édité par les fils et filles des déportés juifs de France. Bonsoir.
Oui, bonjour.
Merci Serge Klarsfeld d'être avec nous par téléphone et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. D'abord, il nous semble évidemment impossible de ne pas vous interroger sur l'actualité qui a traumatisé les Juifs du monde entier et leurs amis. Le 7 octobre dernier, la population du sud de l'État d'Israël a connu l'attaque la plus meurtrière et la plus barbare de son histoire depuis sa proclamation d'indépendance en 1948. Le récit des massacres a fait ressurgir les images les plus glaçantes de la Shoah. La vague d'antisémitisme qui en a résulté notamment en France suscite une inquiétude très forte parmi les populations juives d'Europe. Des otages de tout âge restent prisonniers à Gaza et nous sommes impuissants à les aider. Nous sommes tellement ébranlés que nous sommes en état de sidération depuis un mois. Vous qui êtes une autorité écoutée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer ?
Bah pour vous rassurer, je peux pas dire grand-chose, étant donné qu'il y a une vague de haine anti-juive à travers le monde, dans des masses humaines considérables, puisque il ne faut pas l'oublier, s'il y a 15 millions de juifs dans le monde, il y a plus d'un milliard de ou un milliard ou deux de musulmans, et que dans les grandes pulsions qui animent les grandes masses humaines, eh bien, les gens prennent position en général pour ce qui les unit, ce qui fait que les musulmans sont du côté de la population de Gaza et du Hamas, et puis les juifs sont réunis autour d'Israël, mais bon, les rapports de population sont extrêmement défavorables à la population juive qui est très réduite. Alors nous assistons à une vague d'antisémitisme qui a des actes antisémites, mais même en France où il y en a de nombreux, et donc on est inquiet, l'avenir est imprévisible, absolument imprévisible, et donc on ne connaît pas l'issue militaire à Gaza, et on ne peut pas donner des paroles rassurantes, hein. C'est impossible de rassurer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les Juifs ont connu des heures sombres, voilà de nouveau des heures sombres qui réapparaissent avec des nuages dans notre ciel, et il faut attendre le résultat de l'opération militaire qui est engagée à Gaza et qui est incertaine également, donc ensuite on verra ce qu'on peut reconstruire et si on peut s'opposer à cette haine anti-juive qui vient aussi dans des universités occidentales où les jeunes prennent parti pour prennent parti contre les juifs, ce qui est regrettable, mais et qui est un peu inattendu, et donc moi, je me souviens il y a 50 ans quand je prenais la parole dans les campagnes que nous menions, Béat et moi, je disais aux audiences juives auxquelles je m'adressais, dans la vie de tout juif, il y a des moments absolument dangereux, on ne peut pas y échapper, eh bien, voilà un de ces moments qui concerne tous les juifs du monde entier, un moment où Israël, ce qui se passait dans les pogroms du début du XXe siècle, dans la solution finale de la question juive par les nazis, voilà que c'est réapparu sur la terre d'Israël, à l'intérieur de l'État d'Israël, et ce n'est pas un pogrom. Un pogrom, c'est quand la population juive est désarmée, et là, la population juive, elle avait un État pour la défendre, elle avait une armée pour la défendre, et malgré tout, la façon dont elle a été attaquée a pris la forme d'un pogrom, donc le choc à travers le choc pour les Juifs, aussi bien en Israël qu'à travers le monde, est un choc qu'on peut assimiler à un traumatisme.
Merci Serge Klarsfeld d'avoir réagi sur ce sujet. Alors on va parler de votre actualité, qui est donc la publication du mémorial de nos militants disparus entre 1977 et 2023, qui vient d'être édité par les fils et filles des déportés juifs de France. Par ce livre coécrit avec Claude Boschurberg, que l'on entendra dans un instant, vous remémorez les personnes et les actions qu'elles ont menées et qui ont contribué à faire de l'Association des fils et filles la référence extraordinaire qu'elle est devenue. Sur 350 pages sont ainsi répertoriés les noms de plus de 330 militants des fils et filles, aussi bien des déportés que des orphelins de la Shoah qui ont lutté avec vous et votre épouse durant près de 5 décennies sur tous les fronts en France comme à l'étranger. À la fin se trouve la liste alphabétique de tous ces disparus. Serge Klarsfeld, pourquoi est-il si important aujourd'hui de se souvenir et de commémorer les militants disparus ?
Eh bien parce que en général on parle de Béate, on parle de moi, on parle d'Arnaud, on parle de Claude Boschurberg, mais on parle très peu des militants. Or, notre force a été de représenter quelque chose de collectif et pas simplement quelque chose d'individuel. Et pour représenter quelque chose de collectif, bah, il faut aussi agir avec des militants. Et nos militants étaient formidables. C'était la génération des déportés, la génération des orphelins de déportés. Ils méritaient 1000 fois d'être cités, qu'ils soient dans un livre et que ce livre, dans les bibliothèques, puisse transmettre leur mémoire, transporter leur mémoire dans l'avenir et qu'on sache comment on l'a fait, mais avec qui on a fait ce qu'on a accompli. Alors, d'un côté, c'était très triste de faire cet ouvrage, de penser que tous ces gens qu'on a si bien connus et aimés, et qu'ils ont disparu, et de l'autre côté, de savoir qu'ils vont avoir une vie posthume et qu'on ne les oubliera pas, bah, c'est important.
Alors, ce qui est important aussi, c'est les repères chronologiques. Alors, on comprend pourquoi 2023, mais pourquoi 1977 ?
C'est pas 1977 parce que le groupe qu'on a constitué s'est constitué entre disons 1975-77 et 79 qui est la création officielle de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. Mais il fallait avant qu'il y ait un groupe, et ce groupe, ce sont ceux qui sont venus au-devant de nous pour nous dire « on veut vous aider parce que vous faites des choses qui correspondent à ce que nous attendions ». Et on veut se joindre à vous pour les faire avec vous. Et voilà, c'est ainsi que s'est constituée cette association. Elle s'est constituée surtout en faisant le mémorial des Juifs déportés de France. C'est-à-dire que tous ceux qui venaient à nous, eh bien, on leur donnait une liste, on leur donnait les noms à recopier. Et en faisant le mémorial des Juifs qui avaient disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, à peu près 80 000 noms, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, eh bien, c'est en faisant ce travail qu'on a forgé l'association des fils et filles, et il était normal aussi que tous ces gens qui nous ont aidés, la plupart sont morts, eh bien, il fallait pas aussi que eux disparaissent, et donc on a fait ce travail de reconstituer année par année tous ceux qui nous ont quittés, de retrouver des articles ou des photos de façon à ce que, avec précision, on retrace leur parcours de vie et leur parcours familial et qu'on sache que d'où venaient les gens qui étaient autour de nous et qui nous ont aidés. Il ne faut pas oublier non plus que ce que nous avons fait, nous avons fait beaucoup, nous avons fait juger les Allemands, les criminels allemands, nous avons fait juger leurs complices français, nous avons construit le premier mémorial des Juifs de France 40 ans avant en 1981 à Roglit en Israël. Nous avons fait le premier pèlerinage en avion en un seul jour à Auschwitz. On a fait le train de la mémoire. On a écrit le calendrier de la persécution des Juifs de France. On a publié des tas de livres. La République française nous a été très reconnaissante, à Béate et à moi. Elle nous a fait grand croix de la Légion d'honneur, grand officier de la Légion d'honneur pour Béate. On a eu toutes les récompenses possibles et inimaginables, mais ces récompenses, elles allaient aussi à tous ceux qui nous ont aidés et nous leur devions qu'ils ne soient pas oubliés.
Voilà, alors le produit, l'objet en lui-même est un très beau livre avec une jolie couverture, c'est un bel objet. Est-ce que ce choix éditorial allait dans le sens de rendre d'autant plus hommage à l'action des militants des fils et filles ?
Il fallait faire un livre présentable, tout à fait, qui puisse durer, et donc il fallait une couverture, un beau papier, une couverture solide, et des textes qui soient des textes bien écrits, enfin, donc c'est un beau livre, effectivement, c'est un beau livre en couleur, et donc... je ne peux pas dire que je suis fier de l'avoir fait, mais je pense que Claude Boucherberg et moi, nous sommes soulagés de savoir que si nous disparaissons demain, eh bien au moins on aura fait notre devoir vis-à-vis de ceux qui étaient avec nous dans les manifestations, dans les arrestations, même dans les prisons. Eh bien on n'a pas manqué au devoir que nous leur devions, voilà.
Alors, la dernière question que je souhaitais vous poser, c'est que, heureusement, il reste encore des militants, mais il y a aussi des petits-enfants, ou même des arrière-petits-enfants de déportés juifs de France, qui aimeraient poursuivre le combat.
Oui, oui, il en reste, mais il reste encore un dernier carré autour de nous, et puis des enfants, ou des petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants. Mais ce que nous avons accompli, ils ne pourront plus l'accomplir, puisque ce que nous avons accompli, c'est par rapport à ce qui s'était passé, des combats que... Je pense que ceux qui continueront affronteront d'autres situations et ça sera à eux de découvrir quel est, disons, le combat qu'ils auront à mener. En tout cas, nous avons notre fils qui est là pour assumer la relève, puisqu'il est d'une génération plus jeune que nous, et que, bon, il entretiendra la mémoire de ses parents et des militants qui l'entouraient. Et puis, il fera peut-être un deuxième tome des militants disparus quand il faudra qu'il fasse l'histoire de Béat, de Serge, de Claude Bouchurberg, de Régine Lip, l'histoire du dernier carré qui est encore là et qui est encore actif et qui est plongé et qui sera dimanche dans la marche entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg. Voilà.
Merci infiniment, Serge Klarsfeld, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et nous allons parler dans un instant avec Claude Bouchurberg, qui est le co-auteur avec Serge Klarsfeld du Mémorial de nos militants disparus 1977-2023, qui vient d'être édité par les fils et filles des déportés juifs de France. Alors Claude, évidemment, on ne vous présente pas ici. Vous êtes chez vous, sur le plateau et l'antenne de Radio Shalom. Oui. Vous y présentez depuis
42 ans.
Oh là là, mémoire et vigilance. Oui. On sait que vous êtes responsable de la page mémoire d'actualité juive. Vous avez plusieurs casquettes, puisqu'à votre passion de journaliste s'ajoute celle d'ostéopathe, de psychosomaticien et d'enseignant. Vous êtes l'auteur de nombreux livres et puis vous êtes surtout un militant engagé au sein de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Pourquoi cet engagement déjà initialement, Claude,
au sein de l'association ? Cet engagement, il remonte à loin. D'abord, Serge, j'ai été très ému en l'écoutant. C'est que, en fait, pour beaucoup de nos compagnons, la rencontre avec notre tragédie familiale se fait en 1978, quand il publie le Mémorial des déportés juifs de France. Et là, je me rends compte de l'itinéraire de mon père, parti le 15 mai 1944 par le convoi 73, dont il ne reste qu'un seul survivant aujourd'hui. Je fais effectivement, j'appréhende son itinéraire, comme beaucoup du reste. Et puis, je voudrais être assez bref, mais en vérité, ma rencontre avec l'association remonte aux années 80 avec la constitution, souvenez-vous, Sandrine, c'était la lutte pour la liberté des Juifs durs. C'est à ce moment-là, avec quelqu'un que vous avez bien connu, Michel Polinowski et mes amis Sarah et Georges Wojakowski, on fonde l'association des Amis d'Ida Noudel, qui va en fait se greffer à ce moment-là avec l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Et en fait, mon engagement commence à cette époque-là.
Alors, vous me donnez le lien vers la suite. Hein. Là, oui. Vous citez quelques noms qui sont probablement dans ce mémorial de nos militants disparus. Serge Klarsfeld, il y a un instant, nous en expliquait la genèse. Oui. Mais pour vous, quel est l'objectif de ce mémorial ?
Alors, l'objectif de ce mémorial, d'abord, il faut dire qu'il a été pensé, il a été conçu, mais intégralement par Serge Klarsfeld. Et je dois dire, en toute honnêteté, qui m'a fait la surprise de cette publication. Parce que, en fait, il faut savoir qu'avec Serge Klarsfeld, on dit c'est un combat de mémoire. C'est plus qu'un combat de mémoire, c'est un combat éthique. Et quand on vient de l'entendre, on vient de l'entendre à l'instant, en fait, son objectif, c'est de n'oublier personne. Je dirais les victimes de la Shoah, comme ceux qui se sont battus pour la mémoire et la justice pendant 5 décennies dans ce pays. N'oubliez personne. Et je dirais que ça, c'est son élégance morale, c'est son héroïsme aussi avec sa femme Béate, parce qu'en vérité, avec cet ouvrage, il l'a dit, mais je persiste et je signe, il s'agissait de laisser une trace écrite de tous ces valeureux combattants qui ont tellement fait pour la reconnaissance de ce qui s'est passé. Et l'aboutissement, vous le savez très très bien, Sandrine, c'est 1995, où nous sommes présents au Veldiv et où Chirac va reconnaître l'implication de l'État Vichy dans ce qui s'est passé. Et pour nous, qui sommes autour des Klarsfeld, je dirais que c'est une grande émotion parce que, en fait, au-delà de l'histoire, de recouvrir, je dirais, la vérité, il s'agissait également de renverser les mentalités de ce pays. Et c'est quand même une belle victoire. Donc c'est ça, cet ouvrage. C'est une sépulture de papier. Et puis, je vais vous confier quelque chose. Voilà. Il s'avère qu'il y a encore quelques jours, je l'ai ouvert à n'importe quelle page, je l'ai feuilleté. Et je vais vous confier quelque chose, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du mal aussi, mais ça m'a fait du bien. Pourquoi j'ai revu des visages. J'ai revu des personnalités avec lesquelles on s'est battu. Je pense à des gens magnifiques comme Jacques Tauros et d'autres. Et ça faisait un bien fou de se dire, comme vient de le dire Serge à l'instant, mais au fond, on a fait quand même quelque chose d'utile. Même si aujourd'hui, je persiste, je me demande, comme vous, Sandrine, s'il n'y a pas une leçon perdue d'Auschwitz. Où est l'humanité aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait? Hier, je recevais Serge Barsalini, qui se bat aussi pour le souvenir français depuis tellement longtemps. Et lui aussi était vraiment, je dirais, meurtri de voir que, en fait, eh bien, c'est à nouveau une césure dans l'histoire humaine, à nouveau une césure qui fait que, en réalité, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? C'est des questions qui nous taraudent aujourd'hui.
Et cette sépulture de papier, la jolie expression que vous venez d'employer, est d'autant plus légitime, utile, quand on voit que l'histoire peut bégayer.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
On a dit que c'était un bel ouvrage, c'était un beau livre. Est-ce que vous pouvez nous donner une description pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom, de quoi il est constitué? Comment s'articule?
Alors, il est constitué. Alors, il aurait fallu plutôt poser la question, parce que l'architecte en chef, c'est Serge. Mais je vais essayer. En fait, il reprend la Genèse, c'est-à-dire qu'il rend hommage à quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est-à-dire des amis proches de Serge, des personnalités comme Henri Golub, qui a été le premier président de l'association, et puis également des valeureux rescapés d'Auschwitz. Je voudrais citer Henri Pudelot, je voudrais citer bien sûr Milo Adonner, je voudrais citer Julien Aubard. Et puis, évidemment, celle qu'on a perdue il n'y a pas si longtemps, qui est Annette Zenman. Ce sont des héros, ces gens-là. Et donc, en fait, à travers les pages de cet ouvrage, on va revenir sur leur histoire. Et puis, en même temps, je dirais que, modestement, à chaque fois que l'un d'eux, aussi bien déporté que fils et filles, orphelins de la Shoah, nous ont quittés, eh bien, je me suis fait, j'ose ce mot, un devoir moral de laisser déjà une trace, parce qu'il méritait effectivement d'être inscrit dans les tablettes de l'histoire. Et en feuilletant cet ouvrage, c'est véritablement un livre d'histoire et un livre de mémoire, et je dirais avec une patte humaine. C'est pas, je dirais, des commentaires d'histoire, c'est simplement faire revivre des hommes et des femmes qui sont le plus souvent anonymes et qui ont tellement compté dans l'histoire. Et c'est vraiment, encore une fois, à l'honneur de Serge de ne pas les oublier.
Alors
Et ça m'émeut vraiment. Parce que s'il ne l'avait pas fait, ces gens-là seraient passés aux oubliettes.
Alors vous êtes ému et moi aussi, puisque cette histoire renvoie aussi à la mienne en tant que petite fille de déportée.
Oui.
Et je suis aussi émue. S'il fallait mettre en avant, comme ça arbitrairement, une femme et un homme, quel nom vous nous donneriez?
Ah, c'est difficile. Non, là, je peux pas dire, parce que en fait, il y a des gens magnifiques. Ils sont tous magnifiques. Mais disons que c'est vrai que il y a parmi ce collectif, il y en a avec lesquels on a été peut-être un peu plus proches. Il y a aujourd'hui. Je dirais qu'il y a parmi eux des compagnons qui me manquent. Hein. Je pense à, par exemple, mes amis Georges et Sarah Wojakowski. C'est un chagrin de les avoir perdus. Je parle aussi de Jacques Tauros, je parle aussi de Milo Adonner, mais combien d'autres? Et en fait, il y a quelque chose d'étrange. C'est que, oui, ils nous ont quittés. Mais en fait, dans le dernier ouvrage, vous m'aviez interrogé déjà, Sandrine, le dernier carré des fils et filles, avec un sous-titre, une éthique de la mémoire en acte, je disais qu'au fond, ce qui caractérisait l'ambiance d'aujourd'hui, avec eux, en filigrane, c'est que je parle d'une présence-absence. Et à telle enseigne que, par exemple, vous savez qu'on est dans le 80e anniversaire du départ des convois des déportés juifs de France. Et en vérité, à chaque fois qu'on se retrouve lors du départ d'un convoi où Serge va prendre la parole pour retracer, pour évoquer l'historique de ce convoi, ça se passe au mémorial, et je dirais, nous avons une représentation à ce moment-là des différentes places où se trouvaient ceux qui nous ont quittés. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'ils sont là, quoi, autour de nous. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, en fait, tant que nous sommes encore là, eh bien, et tant que nous pensons à eux, ils ne nous ont pas quittés. C'est ça qui est magnifique. Et je voudrais rebondir sur quelque chose avec l'entretien que vous avez mené avec Serge tout à l'heure. C'est que certes, nous vivons une tragédie aujourd'hui. Certes, je le disais hier à Serge Barcellini, qui est le contrôleur général des armées, qui est le président du Souvenir français, je parlais d'une deuxième césure dans l'histoire. Vous qui êtes historienne, Sandrine, vous le savez, la première césure, c'est évidemment, je dirais, au-delà de l'opération Barbarossa, ce qui va se passer le 20 janvier 1942, au moment de la logistique à Wannsee de l'élimination de 11 millions de Juifs européens. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pour nous aussi une deuxième césure dans l'histoire humaine. Une deuxième césure dans l'histoire humaine. Et je vous regarde bien, Sandrine, et vous allez partager la même chose que moi. Oui, on est frappé par le malheur. Oui, les Juifs sont encore une fois les persécutés, les victimes. Mais, on ne nous coupera pas de la flamme juive. C'est impossible. Le peuple juif est éternel. Le peuple juif est éternel. N'en déplaise à tous ceux qui nous détestent. Nous vivrons encore, nous, nos petits descendants, nos arrière-petits descendants, et c'est comme ça. Voilà. Et j'ai envie de le dire, parce qu'en réalité, c'est ce qui doit nous motiver. C'est ce qui doit faire que nous devons tenir la tête haute. Gardons la force. Gardons la force.
Am Israël Chai.
Am Israël Chai.
C'est difficile cette interview,
oui,
pour moi comme
oui,
pour vous.
Mais on oui, va mais on essayer. Se connaît bien, on je sais que vous partagez bien. Les mêmes choses que moi.
Oui, et avec beaucoup d'émotion.
Oui.
Le livre a paru il y a quelques jours, quelques
oui.
semaines maintenant.
Oui,
comment les familles et les proches des militants disparus ont réagi à la publication du livre? Quel impact
Alors,
il a eu sur
écoutez,
elles
Écoutez, je ne sais pas trop actuellement, parce qu'on a fait une présentation, c'était précisément le jour de sa sortie pratiquement, c'était le 11 octobre dernier, donc c'est récent. On s'est retrouvés en petit comité, je dirais, avec les proches des descendants, je parlais par exemple des Wojakowski, il y avait leurs enfants, et évidemment les proches de tous les fils et filles. Mais, Sandrine, c'est tout à votre honneur, vous êtes la première qui nous interviewez. Pour l'instant, alors, je dirais que je mets un bémol, c'est qu'avec l'actualité aiguë, je comprends qu'en fait, on ait pu retarder un peu les interviews. Mais vraiment, je dirais, pour les efforts qui ont été faits par Serge, et je dirais, le combat éthique qui est le sien, pour n'oublier personne, vraiment j'attends qu'on puisse quand même avoir un peu plus d'audience pour l'avenir, quoi. Parce qu'en réalité, vous le savez bien, encore une fois, je voudrais préciser que vous êtes une historienne éminente.
Merci.
Je ne suis pas flatteur. Je connais votre parcours, on se connaît depuis longtemps, parce qu'on a commencé, vous étiez Actualité juive, donc on se connaît bien. Et vous le savez très très bien, c'est qu'en réalité, pour sauvegarder l'histoire, eh bien il faut l'écrire. C'est-à-dire qu'une histoire qui n'est pas narrée, une histoire qui n'est pas écrite, c'est une histoire qui disparaît. Et à telle enseigne que je renvoie au beau livre que vous avez fait sur Amado Lévy-Valencin et puis Chouchani, parce qu'en même temps, vous leur avez donné de la lumière, vous avez fait œuvre d'historienne, mais comme les Klarsfeld, d'une certaine manière, c'est avant tout une œuvre humaine, une œuvre humaine, voilà.
Tout à fait, c'est ce qu'on ressent aussi quand vous en parlez. Alors évidemment, on a toutes et tous envie de se procurer le livre. Comment on fait? Est-ce qu'on le trouve facilement?
Mais on le trouve uniquement chez Serge Klarsfeld, parce qu'en réalité, c'est son honneur aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il ne passe pas par des éditeurs. En réalité, il a un océan d'ouvrages derrière lui. On peut se le procurer donc aux rues de la Boétie, hein, bien sûr. Et puis, on peut l'appeler pour lui commander le livre. Béat se fera un plaisir de prendre les demandes en téléphonant à 01 45 61 18 78. Ils sont toujours disponibles pour recevoir, évidemment sur rendez-vous, mais en même temps, c'est un plaisir d'aller à leur rencontre parce que, en fait, je précise bien, aujourd'hui, avec cette épopée qui est la leur, cette épopée, je dirais que c'est un couple exceptionnel en regard de l'humanité. Vraiment exceptionnel. Et je suis, encore une fois, tellement fier d'avoir mon nom associé au sien. à travers cet ouvrage.
Et une fierté que je partage en vous recevant tous les deux aujourd'hui et en suivant aussi les actions de l'association. Alors juste un mot sur le livre, je vous avais reçu pour en parler. Le dernier carré des fils et filles, une éthique de la mémoire en acte qui complète ou partage ce mémorial de nos militants disparus. Et là j'ai envie de vous poser une question à vous Claude. Que faire quand les témoins vivants de la Shoah ont disparu pour perpétuer la mémoire de la Shoah?
Alors là encore, moi j'ai un naturel optimiste, hein, c'est qu'en fait on a pas mal de relais et puis je renvoie quand même à une institution dont on peut être fier en France, je la désigne, qui est le mémorial de la Shoah à Paris en particulier et même à Drancy, c'est qu'aujourd'hui c'est un véritable laboratoire, il y a absolument tout ce qui est possible en termes de logistique pour que la transmission soit accomplie, et en particulier en insistant aussi sur l'éducation, qui est tellement importante pour l'antisémitisme aujourd'hui. Et en fait, il faut être optimiste, parce qu'il y a une équipe qui est vraiment formidable, et je dirais que la transmission, elle se continue. Et elle se continue, et on le voit actuellement, je ne suis pas en train de faire du baratin, c'est qu'avec le Covid et ces deux dernières années, on a pléthore de nos compagnons, de nos amis qu'on a tellement aimés, qui ont disparu. Mais en fait, la mémoire et l'histoire se continuent encore aujourd'hui au mémorial. Et puis, dans d'autres vecteurs. Bon, le travail que vous faites aussi rue Lafayette, et puis dans d'autres endroits. Donc, soyons optimistes. Avec ce qui s'est passé, cette césure, encore une fois, dans l'histoire, je dirais, ça convoque toutes les sciences humaines. Toutes les sciences humaines. Et je dirais que ça ne pourra pas finir. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas mettre un terme à la réflexion qui, en fait, est induite par ce qui s'est passé, quoi. Et ce qui s'est passé, et qui a, d'une certaine manière, récidivé. Comme si, encore aujourd'hui, on se retrouvait à l'histoire zéro, quoi. Donc, le combat continue. Et je dirais que, en fait, la chance que nous avons, nous, les Juifs, c'est que, d'une certaine manière, nous sommes des gens de l'étude. Avant tout, nous sommes des gens du limoud, des gens de l'étude. Et c'est précisément parce que nous privilégions la pensée que cette pensée sera toujours réflexive pour faire en sorte que l'humanité aille un peu mieux. C'est ça le messianisme, que l'humanité aille un peu mieux. Donc, gardons l'espoir. Gardons l'espoir et gardons la force.
Et nous sommes le peuple du livre, j'ajouterai.
Et nous sommes le peuple de l'interprétation du livre.
Comme disait Armand Abécassis, et que heureusement, il y a les publications que vous faites, et que l'Association des fils et filles des déportés juifs de France publie aussi régulièrement, dont cette actualité, le mémorial.
Longue vie aux fils et filles des déportés juifs de France.
Amen. Il y a une question classique, mais néanmoins difficile, pour terminer cette émission, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de se procurer cet ouvrage. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Oh, je leur dirais que, en fait, je parlais de l'éthique de Serge Klarsfeld. Il y a aussi une éthique individuelle. C'est simplement de ne pas oublier vraiment ces héros qui nous attendent pour qu'au moins on puisse faire connaissance de leur histoire et de leur combat. C'est la moindre des choses. C'est un bel ouvrage qui mérite, et je le dis de tout cœur, d'être dans les bibliothèques des familles. Voilà. En même temps, à côté, juxtaposé au mémorial des déportés juifs de France et au mémorial des enfants juifs déportés de France avec tous les additifs. C'est-à-dire qu'il y a il y a la Shoah et il y a la post-Shoah. Voilà, c'est ça mon cœur.
Merci.
Que j'ouvre.
Merci beaucoup Serge Klarsfeld d'avoir été avec nous au début de cette interview. Merci Claude Boschurberg aussi d'avoir complété. Je rappelle que vous êtes les co-auteurs du mémorial de nos militants disparus 1977-2023 qui vient de paraître aux éditions Klarsfeld, fils et filles des déportés juifs de France, que l'on peut se procurer directement auprès de l'association et de Béate et Serge Klarsfeld.
Merci.
Bonsoir.
Merci Sandrine.
Bonsoir. À très bientôt.
Merci.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.